Bienvenue dans cette confrontation d'idées. Aujourd'hui, on va parler d'une élection assez fascinante. Imaginez un scrutin où la coalition au pouvoir remporte une victoire écrasante. Ils ont la majorité absolue avec 39 sièges sur 60.
Ce qui est énorme.
C'est énorme, oui, tout à fait. Sur le papier, c'est un triomphe total. Mais cette arithmétique implacable cachait peut-être les premières fissures d'un effondrement politique. On plonge aujourd'hui au cœur de Saint-Marin, la plus ancienne république du monde, lors de ces élections du 31 mai 1998. La question centrale, c'est de savoir si ce maintien au pouvoir démontre la résilience d'un système capable de s'adapter, comme j'en suis convaincue, ou bien s'il s'agit plutôt du dernier souffle d'une époque révolue.
Eh bien, pour moi, les signaux d'alerte de ce scrutin montraient très clairement que l'ancienne matrice politique était condamnée. Peu importe le nombre de sièges remportés au fond, l'effondrement était déjà en marche.
Alors, si on regarde les mécanismes de l'époque, la stabilité est quand même indéniable, non ? Le Parti démocrate chrétien, le PDCS, et son allié le Parti socialiste maintiennent vraiment leur emprise.
Ouais, ils gardent le contrôle des institutions.
Exactement. Gabriel Gatti est reconduit aux affaires étrangères. C'était un poste crucial. Il faut se rappeler qu'on est dans un contexte où l'Europe entière se prépare à passer à l'euro. Donc, reconduire cette alliance, c'était une stratégie délibérée. C'était une façon pour les électeurs de, disons, piloter la transition monétaire sans perdre la main sur leurs propres affaires.
Je vois l'idée, mais sauf que le contrôle leur échappait déjà sur le terrain. Enfin, prenons juste le taux de participation. Il est tombé à 75%.
Ce qui reste quand même élevé dans l'absolu.
Vu de l'extérieur, ça semble honorable, oui. Mais il faut comprendre comment fonctionne Saint-Marin. Le vote, là-bas, c'est historiquement un acte de loyauté personnelle. C'est un échange très ancré dans un système de clientélisme. On a des expatriés qui traversent l'Europe entière simplement pour glisser un bulletin dans l'urne.
Ah oui, c'est vrai, les fameux voyages électoraux.
Voilà, c'est ça. Donc quand ce chiffre chute si brutalement, ce n'est pas de l'abstention politique classique. C'est vraiment le tissu même du patronage qui se déchire. Et puis, il y a la percée de l'Alliance populaire. Il rafle près de 10% des voix avec une campagne strictement axée sur l'éthique. Ça matérialise ce rejet viscéral du système, je trouve.
C'est un très bon point. Mais enfin, 75%, ça reste un taux d'engagement qui ferait rêver bien des démocraties occidentales de l'époque. Et l'Alliance populaire canalise certes une frustration, oui. Mais le fait que le système absorbe cette nouvelle force d'opposition au sein du Parlement, ça prouve bien son élasticité. Je suis persuadée que ces dynamiques internes ne se produisent pas en vase clos.
C'est-à-dire ?
Si les électeurs exigent de la transparence, c'est surtout parce que la pression à la frontière est devenue super intense.
Ah, la frontière italienne, bien sûr. C'est ça qui nous amène directement à l'opération main propre. Et ce n'est pas une simple coïncidence. La vaste purge anticorruption italienne au début des années 90, elle a eu un effet complètement mécanique sur Saint-Marin.
Oui, Rome surveillait tout ça de très près.
Absolument. Rome ne pouvait plus tolérer un micro-État servant de paradis fiscal opaque, enclavé sur son propre territoire, alors même qu'elle emprisonnait ses propres politiciens corrompus. Donc, les dirigeants saint-marinais n'ont pas fait preuve d'élasticité volontaire. Ils subissaient un blocus virtuel. L'adaptation n'était pas un choix. C'était vraiment une question de survie immédiate face aux voisins italiens.
C'est là que notre lecture diverge, je pense. Subir la pression, oui. Mais y répondre en modifiant son propre cadre légal, c'est précisément ce que j'appelle de l'adaptation maîtrisée. Saint-Marin a fonctionné comme une espèce de soupape de sécurité.
Une soupape ?
Oui. Face à l'exigence de coopération judiciaire, le gouvernement a réécrit ses lois pour s'arrimer à la zone euro. Regardez l'investiture des capitaines régents Pietro Berti et Paolo Bollini à l'automne 1998. Ça illustre bien cela. Ce n'est pas qu'un cérémonial folklorique, c'est l'affirmation d'un État souverain. Un État qui montre à l'Europe qu'il peut purger ses propres pratiques bancaires sans se faire dicter ses lois de l'extérieur.
Sauf que cette soupape, elle a fini par exploser très peu de temps après. Si 1998 était vraiment une adaptation si réussie, pourquoi est-ce que cette même coalition historique s'est déchirée au tournant des années 2000 ? Ça a plongé la République dans une instabilité chronique incroyable.
Les coalitions s'usent, c'est la vie politique.
Oui, mais là, le maintien du statu quo n'était pas un gage de stabilité. C'était le verrouillage d'un système qui refusait de mourir. Ils ont passé des lois de façade pour apaiser l'Italie, c'est certain. Mais les contradictions internes du gouvernement, surtout sur le partage du pouvoir, elles étaient devenues tout simplement insolubles.
L'instabilité ultérieure ne doit pourtant pas effacer la performance de 1998, à mon avis. la coalition a réussi à maintenir le cadre institutionnel pendant la phase, disons, la plus critique de la négociation monétaire européenne. C'est l'exemple parfait d'un système robuste. Il absorbe un choc externe colossal, même si, bon, la facture politique a dû être réglée quelques années plus tard.
Ouais, je comprends votre point de vue. Mais de mon côté, je maintiens que cette majorité écrasante masquait une légitimité à bout de souffle. La fracture du lien de patronage et l'émergence d'une opposition axée sur l'éthique, c'était les véritables boussoles de ce scrutin. Ça annonçait clairement la fin d'une ère.
Ce qui est incontestable, et je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus, c'est que la combinaison de l'arrimage à la zone euro et la surveillance de l'Italie a forcé l'ADN politique du Montitano à muter définitivement.
Absolument, oui. Le micro-État a dû apprendre à composer avec un écosystème européen qui, ne tolérait plus du tout ses anciennes zones d'ombre.
C'est une période charnière fascinante et ça nous rappelle que les chiffres bruts d'une victoire électorale ne disent jamais tout de la santé réelle d'une république. Il y a encore tant à explorer dans ces archives. Merci pour cet échange et à très bientôt.